cet espace vide pourrait être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services? Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous, radiotalbot@gmail.com. Radio Talbot est rendu possible grâce à la participation du gala Humour aveugle 27. Une soirée de rire garantie au Théâtre Saint-Denis 1 le 14 mai à compter de 20h. Billets en vente chez Ticket Pro. Plus de détails, humouraveugle.ca. Une soirée au profit de la Fondation des aveugles du Québec. Radio Talbot est une présentation des Brasseurs illimités et de la bière Simple Malte. Mugudio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique depuis 1998. Mugudio.com. Et par CIPC, votre référence pour votre solution informatique.
Salut tout le monde, ici Denis Talbot, accompagné ce soir de nul autre que lui-même en personne, Laurent Lassalle. Comment allez-vous? Bienvenue à cette édition de Radio Talbot. Oui, je suis content que ça aille bien, je suis content que tu aies accepté l'offre aujourd'hui. Oui,
c'est ça, c'est un changement d'horaire pour moi. Généralement, je suis là le mercredi. Ouais. Là, Denis m'écrit, oh, tu peux-tu radio à soir?
Ah, ça sera cool,
okay, tu tiens le mais tu me déplaces parce que hein, je ne vais pas venir sur la rive sud deux fois par semaine.
Déjà que tu fais l'effort de venir une fois, je suis très content. Non, ce qui arrive, c'est que les boys et les girls avaient des occupations un peu partout ce soir. Certains travaillent, certains ont des tâches de cours, certains...
Mais là, je suis en train d'apprendre que j'ai pas de vie.
T'as une vie.
Ça a l'air que non.
Ben oui, t'as une vie. T'as une vie certaine. T'as une vie remplie. T'as une vie pleine d'émotions. Tu laisses pousser la barbe parce que t'auras un rôle bientôt dans une comédie.
Peut-être qu'un certain policier dans une certaine série qui va revenir. J'ai fait un caméo il y a quelques mois dans la série de Resellers de mon ami Chris de PCMI, avec qui je partage l'écran dans le contexte du jeu C'est sérieux. Puis c'est ça, c'est des vendeurs de jeux rétro un peu crosseurs en anglais.
Crosser?
C'est très, très drôle. C'est filmé un peu comme si c'était une émission de Pawn Shop, là,
okay.
Comme les Pawn Stars et compagnie. Donc, mon personnage est supposé de revenir. Fait que là, je me fais pousser la barre parce que mon personnage a une particularité. Il a la moustache.
Oh.
Mais la vraie moustache.
Est-ce que
sale moustache.
Tu arboreras cette fameuse moustache?
Fait, c'est pour ça que je me laisse foisonner ça. Là.
Ouais.
On devrait tourner dans quelques semaines.
Moi, j'ai essayé la barbe, là, puis... Elle ne pousse pas sur du rock.
Oh! Mais... Désolé, monsieur!
Non, essayez, je ne suis pas capable, mais ça ne pousse pas. Merci. Ah ouais? Hey, mais écoute, ça commence fort ce soir. Merci beaucoup à Panzer pour sa contribution volontaire. Très apprécié. À Marie 182, merci également de vous inscrire. C'est la 8e fois qu'on s'inscrit pour madame ou monsieur à Marie. Pour Amarie 182, merci beaucoup, c'est très apprécié. D'autre part, ce Patreon, Eric, qui vient de faire un don volontaire, une contribution volontaire de 10$. Merci beaucoup.
Ça commence bien, ça commence très bien. Continuez comme
ça. Ouais, ouais. Hey, t'as pas chômé aujourd'hui, toi, côté nouvelle, ça bouge.
Non. Il y a du stock. C'est surtout des fois, selon les nouvelles, on peut se dire, bon, c'est une nouvelle brève, on en parle brièvement et c'est tout simple. Mais des fois, c'est un peu plus complexe. Puis ça demande quand même d'expliquer en détail ce qu'il en revient. Puis des fois, les nouvelles longues sont payantes. Des fois, elles le sont moins. Donc, c'est pas toujours évident de choisir la nouvelle qu'on devrait couvrir, puis la longueur qu'on devrait y accorder. Donc,
mais t'es bon pour faire des trucs quand même assez succincts, mais précis.
De vulgariser le plus possible.
Pas évident.
Dites-moi, non, mais écoute, j'aime ça, j'aime mon travail. Ouais. Hein, on aime parler de technologie, de jeux vidéo. Je fais ça à journée longue, je suis convaincu qu'il y a un paquet de gens qui nous envient.
On est content.
Ils peuvent s'imaginer que c'est plus facile que ce l'est réellement. Parce que quand on fait des critiques de jeux vidéo, c'est la même chose à Monsieur Net. Oh, mais là, t'es payé pour jouer à des jeux vidéo. Wow. C'est pas aussi facile. C'est pas parce que tu critiques un jeu que c'est un jeu auquel tu voulais jouer de toute façon. Faut investir du temps. Puis après ça, faut aller tourner
le B-roll pour
des images,
pouvoir préparer.
Mais
des images,
on pourrait pelleter de la chenoute dans une usine aussi. Ah,
tout à fait, oui, non, il existe, mais c'est pas nécessairement le paradis. T'sais.
C'est pas nous autres qui va mourir d'une infection aux mains, disons.
C'est encore drôle. C'est quoi? Il n'y a pas plus de microbes sur le clavier d'un ordinateur que sur un siège de toilette. C'était pas ça l'affaire, je me souviens plus.
Aïe, aïe, aïe.
En tout cas.
On va se faire. Hey, vous savez qu'on est, on a un commanditaire qui est très, 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 très généreux. Il s'appelle M. Danny Plante. C'est M. Humour Aveugle. C'est lui qui est producteur de ça. Le 27e show s'en vient. C'est au Théâtre Saint-Denis. Ça sera animé par Billy Tellier. Il y aura également Mario Jean. Il y a, comment il s'appelle, Peter McLeod, Étienne Langevin, Fred Dubé, Sylvain Larocque. Il y a Guy Nantel, Simon Gouache. 14 mai prochain, toute la semaine. C'est-à-dire mardi, mercredi et jeudi, ainsi que la semaine prochaine, j'aurai 2 billets par soir à donner. Et c'est Guy Katyushi qui va vous poser une question tantôt. Et ceux qui sont sur le chat ou sur les médias sociaux, c'est les médias sociaux, on va y aller sur les médias sociaux. Elle va poser une question et si vous répondez correctement et que vous êtes libre, bien sûr, le 14 mai prochain, si vous ne voulez pas y aller, si vous, avez,
si
vous savez...
Vous n'êtes pas dans la région.
Non, c'est ça. Ça ne donne rien de participer parce que vous allez peut-être faire gaspiller une paire de billets pour rien. Donc, toi, t'entendras-tu d'y aller? J'ai des billets pour toi aussi.
Ça pourrait être intéressant. Mais d'ailleurs, peut-être spécifier l'événement, l'argent qui va être amassé pour l'événement, ça va à la
fondation. Pour les aveugles, donc, c'est intéressant. Alors, donc, ça vous tente de participer tantôt. Guy Katyushi va peut-être vous poser une question sur les gens qui vont être présents à cet événement.
Oh, peut-être que tu as donné la réponse, puis il fallait écouter. Hein?
Peut-être.
On va certainement
chance,
pas se répéter.
Merci beaucoup à M. Danny Plante. Si vous ne gagnez pas ce soir, vous pouvez gagner demain ou après-demain ou la semaine prochaine, encore une fois. Il va me rester super à donner. As-tu vu le nouveau Call of Duty?
Ben oui, non, mais la machine promotionnelle de Call of Duty est démarrée solidement cette semaine.
Effectivement.
Lundi, il y a eu une diffusion, je pense, à 13h30 sur Twitch, où ils ont présenté... Qu'est-ce qu'ils ont présenté exactement? Des images du nouveau jeu?
Ils ont présenté le jeu, ont jasé du jeu, ils nous ont agacés, ils nous ont titillés avec
ça. Il y a la nouvelle bande-annonce qui est sortie le matin même.
C'est ça. D'ailleurs, on va la regarder et on en reparle dans un instant, si tu permets. Hein? Ah oui, non?
Oh my God.
We are getting breaking news out of Switzerland.
Geneva has suffered a massive attack.
Death count continues to rise and there's no end in sight.
This is Top Cat Sovereign. Divert and deploy all available assets immediately.
Holy shit.
Surprise attack in the history of the world. How could they not have seen us?
It's one of our own.
We have no precedent for this. We have no playbook for this. And apparently, we have little time.
Let me make our situation absolutely clear. We are now at war with the Settlement Defense Front. Godspeed, captains.
You got eyes on this, Reyes?
Affirmative.
Let's get in there!
tu mets du David Bowie, là, puis surtout une excellente tune de même.
Oui, exactement.
C'est gagnant dans
C'est gagnant, annonce. Effectivement. Ça, c'est un document qu'on va vous montrer tantôt. Ouais. Mais j'ai hâte de voir ça parce que si on commande. Là, j'ai eu un drôle de feeling quand j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, ça se passe dans l'espace encore. Tu sais, des
films. C'est moderne. Écoute.
Je suis nostalgique un peu. J'aimerais ça peut-être revenir à l'époque du Vietnam.
Ah, encore?
Okay, on l'a fait une fois.
OK, celle-là, ils l'ont fait juste une fois. C'est quoi? C'était
Battlefield. C'était Battlefield à l'époque.
Toujours la Deuxième Guerre mondiale qui est genre 168.
Mais l'affaire, c'est quand on joue dans l'espace, de kit, où ça va vite, puis des armes. Moi, j'aime ça quand même une certaine touche de réalisme. Bon, les soucoupes volantes qui attaquent, puis toute la quête.
Oui, mais c'est...
Je sais pas.
Je trouve ça intéressant. Je sais pas à quel point que ça peut être réaliste, mais le contexte, genre, s'il y a des extraterrestres qui viennent nous attaquer, qu'est-ce que l'armée américaine va faire? Ben là, t'as quand même un contexte très armé qui...
Oui, je comprends.
Qui futuriste, mais qui pourrait survenir dans les prochaines années. On sait pas.
On sait pas, effectivement.
On sait pas ce qui
mais
se passe,
ça le mérite au moins d'être... ils veulent sortir un peu des traditionnelles guerres qu'on a connues.
Ben, tout à fait. Puis ils font des sous-séries pour ça aussi.
Ouais, ouais. Mais là, j'ai hâte de voir. Je sais pas. C'est très beau, très joli, mais j'ai l'impression que ce jeu-là est en train de se faire scooper par Modern Warfare, la version rematricée.
Oui, ben c'est ça. Ils ont annoncé, en fait, ils vont pas vendre cette version-là. On se doutait qu'ils préparaient quelque chose. Finalement, ça a été confirmé. Donc, ils vont reconstruire, rematricer, comme tu aimes si bien dire, le fameux premier Modern Warfare. Le nom officiel, c'était Call of Duty 4 Modern Warfare, mais là, ils ont changé le nom pour uniformiser le tout. Donc, c'est juste Call of Duty Modern Warfare. C'est vraiment beau.
Ah, il est incroyable. Regarde, donc à l'achat.
Oui, c'est ça, je t'ai envoyé les prix canadiens.
C'est ça, t'as les prix canadiens, c'est 80$ et 109$ pour le 100. C'est en achetant le Legacy Edition que tu retrouves la version rematricée. C'est un code numérique, il faut le dire.
Tout à fait, mais ça vient aussi. Il me semble que le Legacy Edition vient avec son Season Pass. Ou si c'est séparé. Je sais qu'il y avait une différence de 20$ pour la version genre sans Season Pass et avec.
Mais je ne suis pas certain de ça. Honnêtement, si quelqu'un peut vérifier pour nous autres sur Twitch, mais je ne suis pas certain de ça. Je ne pense pas que le Season Pass vienne avec parce que normalement, ils sont trop contents de mettre une main dans notre poche et nous dire « Hey! »
Mais c'est Activision, c'est pas c'est pas EA.
C'est la même chose. Même combat.
ça semble pas mal. Infinite War. Fait que toi, tu penses que les gens sont plus excités par le remake?
Ben, je faisais le tour de l'information aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on a parlé énormément du remake, beaucoup plus que de cette bande-annonce.
Ça a été la surprise.
Effectivement, les gens étaient surpris, mais à quelque part, sont peut-être surpris d'avoir à payer. Là, qu'est-ce qu'on dit? Le Season Pass ne vient pas avec le jeu. Oubliez ça, selon Barbe, machin.
Attends, mais c'est parce que... Il y a Legacy Edition, puis il y a Legacy Pro. Puis je pense que c'est Legacy Pro qui donne le Season Pass avec.
Ça aurait plus d'allure que le Legacy normal, parce que là, tu payes pour la version rematricée. Il a fallu qu'ils travaillent là-dessus. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a quelques images qui ont fuité. On aime ça, hein? Écoute, c'est des images qui nous montrent justement le jeu avant, en 2016, et le jeu après. Avant, excuse-moi, 2007 et après. Regarde ça. Tu vois la différence, à peu près la même salle de contrôle, mais beaucoup plus texturée, beaucoup plus de détails.
Ça a été complètement reconstruit. Ouais. Je veux dire, ils ont peut-être gardé un peu la structure de base, mais c'est pas juste exactement les mêmes buildings avec d'autres textures. On est ailleurs.
Ils ont travaillé. C'est 129,99 avec le pass.
C'est ça. Donc, un 10$ de différence.
Exactement.
Il me semble que...
C'est beau, par exemple. Regardez les textures. Regarde ça, là. T'avais quelque chose, un mur plat.
Ah, c'est parce que le Infinite Warfare Digital Deluxe... Mais là, j'ai pas le prix sur le site, en tout cas. C'est peut-être parce que j'avais le prix de la version entièrement numérique.
Oui. Mais ça, on revient justement...
Toujours bien mélangeant.
Aux textures. C'est quand même très joli. Regarde ça, c'est pour ça.
Ah, ça a de la gueule. J'ai hâte de le voir en
live.
Action.
Puis, c'est ça. Il y a des gens qui sont amusés sur le web, justement, à faire des comparatifs en divisant l'écran, en prenant des images.
Tu déplaces ta souris.
Oui, mais c'est pas la version officielle. Okay, fait qu'ils ont piqué des images à gauche et à droite, puis ça donne un résultat qui boboche un peu.
Oui, mais tant que le jeu, tant que t'as pas une vidéo claire, pleinement sorti avec laquelle tu peux comparer exactement le même gameplay. Des fois, c'est tough là, de vraiment voir la différence, mais ça a l'air assez flagrant. Là. On est dans du vrai remaster. Il faut dire que le jeu, à l'époque, est sorti sur PS2 ou PS3, Xbox 360.
Moi, j'avais joué sur tout, là, il me semble.
Il me semble que Xbox 360, ou je suis en train de voir ça.
Je pense que c'est en 360. Regarde, ça, c'est la version dans le temps. Tu sais... quand même, moi, ça a été un de mes préférés. Avec le 2, là, le 2 et le 3, ça a été des jeux qui m'ont plu beaucoup. Il y a des tournures auxquelles on ne s'entendait pas dans le 3. Je ne ferai pas de spoilers si jamais vous voulez jouer, les petits culs qui sont là, qui n'ont pas joué encore.
PlayStation 3, Xbox 360.
C'est ça, il me semble que j'avais joué là-dessus. Donc, plus 80$.
Non spoilers, là, c'est ça le problème.
C'est
les spoilers,
quoi, le problème?
Je déteste entendre les spoilers. Évidemment, quand tu sais que tu veux jouer à un jeu. Là, je me disais ça, tu sais, je parlais tantôt, j'ai joué à Uncharted, on peut pas en parler parce qu'il est pas sorti, NDA, machin chouette.
Ouais.
Donc, peut-être que j'ai aimé ça. Ça se peut, là. Tu sais, puis peut-être que c'est le meilleur Uncharted qui est jamais paru. Tu sais.
Peut-être
que je l'ai fini dimanche. Mais on ne sait pas. Non. Tout ça, on ne sait pas.
Parce qu'on ne peut pas le savoir.
On peut pas le parler.
On peut pas en parler. Tu n'as même pas d'opinion.
Peut-être quand tu le finis, tu obtiens des choses.
Peut-être que tu n'en auras plus non plus.
Surprenante. Mais non, mais je ne sais pas. Je me pose des questions. Il y a tellement
de choses. Tu as le droit de t'interroger. Tu as le droit de t'interroger. Tu t'interroges sur le fait que tu l'as eu en fin de semaine passée puis que tu l'as déjà fini, c'est ça?
Ben écoute, moi, je
peut-être
suis...
que tu l'aurais fini si
je
tu l'avais
suis,
eu.
Je suis fan, ouais, si je l'avais eu. Non, je suis fan d'Uncharted et effectivement, je l'ai fini. Puis.
C'est tout. C'est tout ce que tu diras.
Peux-tu dire le nombre d'heures? On n'en parle pas de ça.
On n'en parle pas de ça. Tu n'as pas le droit. Pas de détails. Tu n'as pas le droit.
Peut-être plusieurs heures. Hein?
Oui, tu vas te faire. Non, je ne sais pas. Peut-être qu'on le saura. C'est quand la fin du NDA?
En fait, c'est séparé avec les vidéos, les images. Ça, c'est lundi, la semaine prochaine.
OK.
Mais la critique peut être publiée jeudi à genre minuit.
Donc, le jeu sort vendredi, probablement, c'est ça?
Non, je pense qu'il sort lundi.
Lundi, OK.
Je pense qu'il sort lundi.
Peut-être qu'on va donner notre avis prochainement. Moi, j'ai gardé ça très tight. Non, je ne peux pas parler plus.
Bon. Le 10 mai qui sort.
10 mai, bon, vois-tu, on est le 7, on est le 3.
C'est mardi la semaine prochaine.
OK, fait que...
Mais les images du jeu peuvent circuler à partir... Puis peuvent être diffusées à partir de lundi, me semble.
OK.
À moins que ce soit lundi très tard dans la nuit pour que ça tombe mardi, je ne suis pas sûr. Mais c'est étonnant, ils ont quand même... Ils acceptent quand même que des critiques circulent plusieurs jours avant.
Oui, c'est rare.
Fait que peut-être qu'ils ont confiance.
Peut-être
normalement, qu'ils ont raison. On ne sait pas.
Peut-être que, justement, quand tu n'es pas sûr de ton jeu, tu dis « Je ne veux pas que les journalistes en parlent avant le lendemain de la sortie. »
Ben ça arrive souvent. Tous les Assassin's Creed, généralement, c'est le jour de la sortie.
Dans le temps, ils faisaient ça. Et là, ils ne font plus ça parce que maintenant, il y a une politique ouverte.
Ah oui, fait qu'ils sont lousses?
Ils sont plus lousses, ils sont plus gentils.
Fait ils donnent moins les jeux aux journalistes, mais tu peux en parler si tu as réussi à l'avoir?
Non, c'est que si tu participes au bêta maintenant.
Ah oui, non.
C'est vrai, tu participes au bêta, donc tu as goûté au jeu. Hmm. Les bêtas qui peuvent être un couteau à deux tranchants, parce que soit que tu as aimé ça énormément, puis que tu dises que tu comprennes qu'il y a des bugs, ou tu oublies que tu as des bugs. Il y avait une étude qui est sortie là-dessus la semaine passée qui disait que la plupart des gens qui ont joué un bêta, qui ont été déçus, n'achètent pas le jeu par la suite. Ça peut être délicat.
Mais c'est quel bêta? C'est-tu la semaine passée où tu te montrais un bêta où il y avait un message? Puis là, je disais, il faudrait quasiment écrire
un jeu japonais.
À la mitaine. En tout cas, je ne me souviens plus, mais.
Oui, effectivement.
Oui, non, c'est mettre l'emphase là-dessus parce qu'évidemment.
Mais.
Hein?
On va venir à nos Uncharted là, le 10 mai prochain. On va en parler, c'est sûr.
Non, c'est clair.
Je veux que tu sois au chaud d'ailleurs, qu'on s'assoie et qu'on discute. Même faire un petit playtest.
On n'a jamais fait ensemble des playtests parce qu'il faut toujours que tu t'en ailles fumer. Mais non, mais c'est important de se nourrir dans la vie.
Oui, effectivement.
Et moi, je me nourris de tabac. Non, c'est pas. En tout cas, hey,
on commande une pizza.
On est commanditaire de bière.
Hey, t'es donc tête.
Ça, on peut en parler.
Oui, il n'y a pas d'NDA là-dessus.
C'est le genre de truc intéressant. Donc, moi, je bois la simple malte Ale de blé bavaroise.
De mon côté, j'ai une saison belge, une de mes préférées, qui se boit très froide. Je l'adore. Merci beaucoup à Simple Malte de participer à l'émission comme ça et de faire partie justement de nos nombreux commanditaires. N'est-ce pas, Laurent?
Tout à fait.
Et n'oubliez pas qu'on a des billets à gagner ce soir pour Humour Aveugle 27. Geekette Yoshi, c'est toi le boss, c'est toi qui décides. You're the boss. Bon, voilà.
La seule condition que tu as imposée, c'était réseaux sociaux.
Exactement.
D'accord.
Merci beaucoup de cette précision. D'autre part, il y a un Kickstarter dont on vous a parlé la semaine passée, sur lequel on disait beaucoup. Puis on s'était rendu compte que M. John Romero ne regardait pas la caméra. C'est comme s'il lisait un texte. Salut, j'ai un jeu vraiment fantastique à te vendre. T'as un petit peu, mets ton carton plus proche du Kodak. Juste à côté, comme ça, ça paraît pas trop. Hey, salut.
Il n'avait pas trop l'air constipé, par contre. Maintenant, il ne regardait pas la caméra. Puis là, Black Room, le Kickstarter a été annulé.
Pourquoi? À cause de la caméra. On y avait
à
dit.
À cause de la caméra, il a dit merde.
C'est ça.
On recommence tout.
Il n'a pas ramassé beaucoup d'argent.
Ça, ça a ramassé à peine 130 000, un peu plus que 130 000 $ US.
131 052.
En 4 jours.
Ouais.
Puis honnêtement, il s'attendait à ce que les gens embarquent plus vite, plus rapidement.
Ouais.
Puis selon lui, il a fait ses études de marché, il a analysé la situation, puis s'est dit, ça se peut que parce qu'on ne montre pas de gameplay, puis ça se peut que parce qu'on n'a pas un prototype ou un démo, que les gens sont moins dedans. Mais c'est les commentaires en majorité qu'il a reçu, donc il a décidé de tirer la plug.
Moi, mon jeu va être écœurant, man. Mon jeu, là, il va être écœurant, mais je ne peux pas te le montrer, mais il va être écœurant. Donne-moi de l'argent parce que mon jeu, c'est le même. Tu n'as jamais vu ça.
Oui, mais il faut qu'on.
Non, tu n'as jamais vu ce jeu-là. Je vais te montrer une image de mon jeu. Tu vas dire, là, imagine-toi le reste, mais ça va être mieux que ce que tu imagines. Mais je veux 700 000 pour le faire.
Non. Attends. C'est qu'il a vraiment vu, il a voulu utiliser Kickstarter d'une façon différente. Le 700 000 $ qu'il essayait d'amasser, c'était pour convaincre d'autres investisseurs qu'il y avait des gens intéressés par, on rappelle, c'est un jeu de tir à la première personne, qui misait énormément sur la communauté, donc allait donner les outils nécessaires pour produire leur propre niveau, modifier leur niveau, pour rouler leur propre serveur.
Mais on vous montre pas comment faire, par exemple, parce qu'on n'a pas de prototype encore. Mais faites-nous confiance, ça va être meilleur que tous les shooters qu'ils ont fait.
Probablement qu'ils voulaient se lancer dans le truc très rapidement pour pouvoir le produire immédiatement, mais... De ce qu'il a dit dans une entrevue, c'est qu'évidemment, il y avait un démo déjà en chantier. Mais là,
au moins, il y a une bande-annonce.
Ils n'ont pas l'idée de faire un crunch, de se forcer pour produire trop vite.
Ouais.
Ils peuvent prendre leur temps. Puis ouais, c'est assez. Il misait énormément sur le fait qu'il
s'appelle John Carmack.
Il a fait Quake, il a fait Doom, Wolfenstein 3D.
Mais écoute la voix de ce gars-là, juste ça là.
Mais c'est volontaire.
Écoute ça. Hawksaw has developed a technology that allows you to be anywhere. C'est vendeur ça là.
Ben écoute, il a peut-être payé cher le gars pour que. Hein?
Ouais, pour avoir une voix de même, il a fumé pas mal. Si continue ça, c'est ça qui va t'arriver avec ta voix, man. On va faire des bandes annonces.
Je vais te parler de Uncharted.
Tu sais, le gars, il est dans le business, ça fait longtemps. Pourtant, je me suis dit, voyons, il y a un nom, c'est id Software avec les Carmack qui sont pas frères là. C'est drôle, tu travailles dans la même compagnie, t'as le même nom.
Puis surtout un nom comme Carmack.
Exactement. Tu sais,
lui s'appelle Romero, puis genre il fait des jeux d'horreur. Alors qu'on pense à George Romero qui fait les films d'horreur. Ouais, je trouvais ça très étrange. Mais c'est son vrai nom de famille, j'ai vérifié.
Mais gars,
donc, ça va revenir une fois que le démo va être prêt. Moi, j'ai quand même espoir, mais d'après moi, c'est un peu maladroit. Là, il y a des gens qui étaient très... comment dire?
Fâchés?
Non, ils s'imaginent des choses. T'sais. J'entends souvent un certain Denis Talbot me dire « Ouais, mais là, les fuites.
Ouais. »
Souvent, ces entreprises qui font exprès.
Ça se peut.
Qui passent ça à gauche et à droite.
C'est comme ça, moi.
Là, il y a des gens qui supposaient que c'était peut-être une stratégie de marketing pour qu'on parle de son jeu. Mais ça fait très...
Ça fait pas
très professionnel dans ce contexte-là.
Me souffouré comme faux, là.
Je suis moins convaincu.
Moi non plus, je pense pas. Là. Le gars, il fait pas ça. Mais non, tu veux que ça marche quand t'embarques dans quelque chose. T'sais.
Exactement.
Mais acheter mon jeu. Mon jeu va être incroyable. Mon jeu, là, pense à quelque chose. C'est encore mieux que ça.
Mais je pense que surestimer un peu l'opinion que les gens avaient de lui, mais j'ai l'impression quand même que le projet va être intéressant. J'ai hâte de le voir.
Moi aussi, j'ai hâte de voir.
J'avais pas participé à ce Kickstarter-là, parce qu'effectivement, ça m'agaçait de ne pas voir de gameplay. Mais, on ne sait jamais.
Mais l'affaire, écoute bien, c'est que je suis sûr qu'ils vont venir avec un vertical slice, un démo jouable. J'espère, en tout cas, qu'ils vont le faire.
C'est le but, ils travaillent déjà là-dessus.
Mais réinventer un shooter, c'est pas facile.
Je sais que c'est pas facile. Mais c'est...
On a tout vu, ou presque.
Oui, mais c'est sûr qu'ils ont inventé quasiment le genre.
C'est ça.
Fait il y en a qui peuvent s'amuser là-dessus.
C'est bien.
Puis, je veux dire, il y a des indépendants qui ont fait des trucs similaires. D'ailleurs, quand on lit la description, il parlait d'une salle, une espèce de holodeck dans laquelle on allait se promener. Puis là, t'avais un prétexte pour pouvoir changer d'environnement chaque fois parce que, bon, évidemment, il y a un glitch dans le système. Puis là, tu peux passer d'un manoir en Transylvanie dans un vaisseau spatial extraterrestre. Fait que ça donne... Vraiment, la prémisse est cool, effectivement. Mais ça me faisait vaguement penser à Super Hot, le shooter où tu joues à un jeu vidéo. C'est comme un jeu dans un jeu, ça fait très méta, mais c'est des univers hyper léchés blancs, puis là, les bonhommes sont rouges. Puis justement, on parle de réinventer le shooter. Eux, ils ont décidé que quand tu bougeais pas, tout figeait. ou du moins étaient au ralenti. Fait que là, tu peux réfléchir au mouvement que tu veux réaliser. Puis, là,
puis
tu
adapter
tasses,
ta stratégie. Ouais.
Là, tu peux éviter certaines balles. Ouais. Mais c'est la même chose quand tu tires sur un ennemi. Parce que l'ennemi est peut-être devant toi, mais il est en train de courir en diagonale. Fait que quand tu tires puis que tu vises exactement sur lui, ben toi, quand tu vas bouger, la balle va, ta balle aussi est figée puis elle va se promener à la vitesse dont tu bouges, puis lui, il se tasse. J'ai vu quelques joueurs direct à ça. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer, mais c'est... C'est tough. Là. C'est quasiment une partie d'échec dans un contexte d'FPS.
Mais c'est un bel exemple de réinvention de style. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, leur affaire. Je ne dis pas que c'est fini, mais
ça a été niaiseux. Ça a été mal fait. Ouais, moi, j'étais... Quand j'ai appris la nouvelle, là, j'ai ri. Tu sais, souvent, on écrit LOL, qui veut dire laughing out loud, donc rire à haute voix, mais c'est rare qu'on rit à haute voix pour de vrai. Là, j'ai ri à haute voix, mais j'ai ri vraiment fort à haute voix. Mon chat s'est sauvé, il a eu peur. Bon. J'étais comme, voyons donc, j'en revenais pas.
Voilà. Fait qu'on va suivre ça. Est-ce qu'on a parlé d'une date où on était pour revenir avec justement ce truc-là?
Non, mais déjà le projet visait décembre 2018. Fait que c'était pas pour demain matin, anyway. Mais bon, ils veulent bien faire des choses, ils veulent pas faire des crunchs, donc genre... C'est drôle, parce que le nom de la compagnie s'appelle... Attends une minute... Nightwork Games.
Exactement.
Donc, ils travaillent de nuit, mais ils expliquent qu'ils veulent pas travailler 24 heures sur 24 sur le projet, ils veulent bien faire les choses, donc ça va être prêt quand ça va être prêt, on s'imagine
mais
probablement...
Tant mieux, on verra bien. D'autre part, il y a un jeu qui s'appelle Dishonored 2, qui va paraître très bientôt... J'ai reçu un communiqué aujourd'hui de la compagnie qui nous disait que le jeu va être disponible au mois de novembre en 2011. C'est un jeu qu'on avait...
Attends, le jeu va être disponible au mois de novembre en 2011?
Excuse-moi. Ce que je voulais dire, je fais trois affaires en même
temps.
C'est
le 11 de novembre qui t'a...
Exactement. 11 novembre 2016, ça va paraître. Et on va voir les premières images de ce jeu le 12 juin à la conférence de Bethesda au E3. Donc, c'est un petit jeu qui nous arrive d'Arkane Studios, souvenons-nous.
Okay. Ce qu'on voit en ce moment,
c'est Dishonored 1.
OK, c'est ça.
C'est le 1
juste la même série, mais c'est pas les
exactement.
Images prochains.
C'est une espèce de monde un peu bizarre avec des armes étranges, une espèce de réalité assez violente.
Est-ce que c'est semblable à 1866 The Order, je sais pas quelle année? Ça, c'était très Steam.
Oui, c'est ça. Bizarre. Mais celui-là, il est le fun. C'est un des jeux favoris à Tristan. Donc, Arkane Studios qui nous a offert ça en 2012. Qui sont fait connaître. Dans mon jeune temps, moi, je jouais à Arc Fatalis, une espèce de RPG très cool qui était paru donc mi-année 2000. Qu'est-ce que je raconte? C'était en 2012, voilà. 99, le jeu. La compagnie a vu le jeu en 99, le jeu est sorti un peu plus tard. Donc, Dishonored, ça s'en vient, excusez-moi, j'étais un peu confus parce que là, ma console vidéo flash pour faire les mix et je suis plus capable. Hop, elle est revenue. Boum! Magie! Et voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que le 12 juin, on va voir les images de Dishonored 2 ça va être présenté au E3. Parce que là, ils sont rendus fans des conférences, eux autres. Hein, Bethesda sont bang.
Oui, et là, tout le monde s'en va, fait qu'on prend toute la place.
C'est ça, on prend toute la place et puis on va voir donc le jeu là-bas. J'aimerais ça que tu nous parles un peu des chums chez Ubisoft et des copines qui sont là-bas. Ils doivent marcher un peu de façon incertaine. Parce qu'avec
tout le monde marche les fesses serrées.
Oui, parce qu'on sait ce qui arrive avec nos amis de Vivendi.
Les amis de Vivendi, ça fait une éternité que ça traîne. Mais là, on a appris justement la semaine dernière, la multinationale française, pilotée par Vincent Bolloré, détient maintenant 17,33% des actions d'Ubisoft, dont 15,66% d'actions avec droit de vote.
Tu as l'espèce de communiqué. Descends-le un petit peu, comme ça. OK, on va te mixer ça. Bon, voilà.
Là, on a pris l'avion, Denis et moi, on est allé en France pour aller chercher le document.
Donc, c'est écrit ici. Ubisoft Entertainment est détenir 19,922,805 actions d'Ubisoft Entertainment représentant les droits.
C'est important de compter le nombre d'actions. Donc, ça, c'est une lettre d'intention. Qui a été que la compagnie Vivendi est obligée de transmettre à l'autorité des marchés financiers de France pour dire un peu c'est quoi leurs intentions avec les actions de l'entreprise, etc. Puis là, il y a eu un drôle de changement de ton parce que Vivendi a fait la même chose en mars dernier lorsqu'elle avait seulement, je crois, 15 ou peut-être même moins de pourcentage. Non, j'ai
Ben, visiblement, ils veulent faire un takeover à style, ça, c'est sûr.
Non, mais c'est ça l'affaire. Non, ils veulent plus.
Ils veulent plus, là.
Ils veulent plus. Ils ont, dit la dernière fois que leur intention était d'être représentés au conseil d'administration d'Ubisoft, sans quoi ils envisageaient la possibilité de prendre le contrôle de l'entreprise.
Donc, c'est des menaces, clairement.
Tout à fait. Là. Mais là, cette portion-là, dans la nouvelle version, est disparue. Puis, c'est très étrange, étant donné que depuis, les parts d'Ubisoft détenues par Vivendi ont augmenté. Mais là, soudainement, ils disent « On n'a pas l'intention de prendre le contrôle. On achète des actions selon le marché. On souhaite avoir une relation amicale avec Ubisoft. Oui. Partenariat intéressant. »
Je vais te piquer ta maison, là, puis on va rester de chambre. Là, il y a Game Informer, justement, qui ont eu une réponse d'Ubisoft.
Oui, ils ont eu une réponse d'Ubisoft. Longue réponse, quand même. Nous ne sommes absolument pas surpris par cette récente déclaration de Vivendi, ni par les intentions qu'elle cache. Il s'agit d'une confirmation de leur stratégie habituelle de prendre le contrôle de manière insidieuse, dans laquelle ils affirment n'avoir aucune intention de prendre le contrôle d'Ubisoft, tout en y augmentant régulièrement leur participation et en préparant une offensive pour la prochaine réunion annuelle des actionnaires. Donc,
ça semble un modus operandi. C'est ce qu'ils font. Fait. Ils acquièrent des compagnies en les volant, finalement.
En février, il me semble qu'ils ont acheté énormément de parts dans Gameloft, qui était justement une compagnie qui avait été lancée par un des frères Guillemot, donc associée avec Ubisoft sans nécessairement être une filiale. Oui, effectivement, Vivendi est très reconnu pour des pratiques le genre. D'ailleurs, justement, historiquement, Ubisoft, c'est déjà arrivé par le passé. EA détenait 20% d'Ubisoft. Puis il était encore question d'une offre publique d'achat hostile. Finalement, EA a changé d'idée et a revendu ses parts quelques années après. Mais non, c'est pas évident d'être indépendant parce que Ubisoft, oui, dans nos têtes, c'est gros. Mais c'est pas aussi gros que Vivendi, c'est pas aussi gros qu'il est, puis que bien d'autres entreprises qui cherchent à diversifier leurs actions.
Potentiellement, c'est parce que s'ils deviennent acquéreurs, ils pourraient donc revendre ça demain ou
ils pourraient décider de démanteler ça. Ils pourraient décider, par exemple, que Studio Montréalais, on va le vendre à EA. De toute façon, ils font des jeux à l'américaine, non? Ouais. C'est ça de l'autre. Il pourrait tout décimer. Là, c'est sûr qu'on est juste à 15,66%, mais ce qui arrive, c'est qu'en parallèle, Vivendi a les fonds et essaie de courtiser les actionnaires d'Ubisoft. Puis, je veux dire, les décideurs d'Ubisoft en ce moment sont quand même minoritaires, même s'ils ont une majorité d'actions votantes. Il y a un conseil d'administration en place, puis là, t'achètes les joueurs un par un. Puis c'est exactement comme la politique. Là. Si vous avez écouté House of Cards, c'est le même maudit principe. C'est juste les entreprises au lieu d'être des gouvernements.
J'ai bien hâte de voir où ça va mener. J'ai des copains qui travaillent là-bas, moi, qui marchent sur des œufs, justement, puis ils savent pas trop ce qui arrive. Puis dans les parties, dans les réunions, tu as toujours M. Guillemot qui fait référence à ça. Il dit, écoutez,
il a essayé de courtiser le gouvernement canadien. Ouais. Il a d'ailleurs rencontré des investisseurs, selon le Toronto Star, à Toronto et à Montréal, là, quelques mois. Donc, on cherche une porte de sortie devant cette espèce d'impasse. Puis c'est sûr que, Ubisoft Montréal, c'est quand même un des fleurons d'Ubisoft. Puis, je veux dire, au Québec, on est quand même fiers d'avoir cette compagnie-là qui a produit des jeux extraordinaires.
Puis, elle crée beaucoup d'emplois aussi.
Tout à fait. Ouais. Donc, c'est important aussi pour le marché québécois, pour le gouvernement québécois, pour le gouvernement canadien.
Est-ce que les
organismes en place vont vouloir défendre Ubisoft contre Vivendi? En se disant justement.
Mais qu'est-ce qu'ils peuvent
faire
concrètement? Ils peuvent pas faire grand-chose.
Je ne suis pas fiscaliste,
mais il me semble que.
Ils pourraient probablement acheter également de leur côté des actions. Je ne sais pas. Je ne suis pas fiscaliste moi non plus. Je ne suis pas un spécialiste des entreprises. Mais je veux dire, c'est pour que Yves Guillemot aille courtiser le gouvernement canadien.
Que l'étau est serré.
C'est probablement qu'il y a une porte de sortie, il y a une issue possible.
En tout cas, je souhaite que ça reste ici quand même, que ça n'ait pas un impact négatif sur les jobs, justement, parce qu'il y en emploie beaucoup de monde, puis c'est un studio important pour l'économie.
Vivendi, c'est une multinationale française, donc c'est français, ça reste en France. OK, ça va. Sauf que Vivendi, historiquement, a fait des espèces de coups de cochon comme ça. Fait que c'est pour ça que les Français sont les gens chez Ubisoft sont nerveux parce que...
Ils les connaissent.
Parce que, justement...
Leur réputation les précède.
Tout à fait, exactement.
Aïe, aïe, aïe. En tout cas. On va suivre ça de près. J'ai essayé de... Ce serait le fun d'avoir quelqu'un qui se connaît vraiment dans ce genre de truc-là, là, de l'inviter ici pour nous en parler davantage.
Ben oui, mais ça fait aller ton réseau.
C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. D'autre part, mesdames, messieurs, sur Twitch, il y a Olivier 888. Il dit « Hey, Denis! » On organise un Indiegogo pour le retour de ton fils, Frank the Tank, sur le podcast.
C'est juste une question d'argent?
Non, pense pas. C'est juste une question de temps. Frank est occupé, ça y sort par le Wawa. Il y a du stock, là. C'est fou, là. Il y a trop d'ouvrages, fait qu'il ne peut pas être ça en même temps.
Il y a beaucoup d'ouvrages. En plus, il y a une vie. Il y a des projets. C'est sûr que dès qu'il y a PAX, il va à PAX, parce qu'on dirait que c'est ancré dans son code génétique.
Ouais.
Mais oui, non, je veux dire...
Écoute, on n'est pas en chicane. Tu sais, les rumeurs, comment ça va vite. D'autre part, on parlait de compagnie tantôt. Il y a M. Hidetaka Miyazaki, qui est le big boss de From Software, qui ça s'est adressé à son staff aussi, à ses employés.
Ouais.
Et puis, tout ça pour les rassurer, parler un peu de ce qui s'en vient. Puis, il y a une vidéo qui a roulé, mais je n'ai pas de son dessus, malheureusement.
Bon.
C'est une vidéo, donc, qui nous présente une espèce de rétrospective de la compagnie, ce qu'ils ont fait.
Faut dire, From Software, c'est Dark Souls 3, exactement. Le jeu auquel vous jouez et que vous sacrez énormément.
Armored Core, le 3, il y a un paquet de jeux qui sont sortis, toute la kit. C'est bien le fun, tout ça. On se dit, ça va bien, on a un bel historique de jeux. On fait des beaux trucs. Mais là où ça devient intéressant, c'est le dernier titre. On arrive ici, attendez un petit peu, je vais vous le montrer. On parle bien sûr de Dark Souls, le jeu favori à Yann. Et là, on arrive, à un moment donné, la diapositive va changer. Et tac! Le prochain jeu va paraître en 2017. Il y a des rumeurs que ce soit deux nouvelles licences. Certains disent que ça pourrait être un retour de Armored Core et probablement une autre propriété intellectuelle qui se jouerait cette fois-ci sur PlayStation, Xbox One, PC et PlayStation VR. Les rumeurs sont parties de tous bords, de côtés. Il va y avoir un Dark Souls 4 en VR. Ça serait pas fou.
Ouais.
Ça serait pas fou.
À chaque fois que j'entends parler de From Software, je pense tout le temps à Rune, le jeu qui était sorti sur GameCube.
Ouais.
Parce que c'était une des seules entreprises typiquement japonaises à sortir un RPG japonais qui allait également paraître en Amérique du Nord. Puis c'est un jeu genre de cartes où ce qu'on dépose des cartes puis il se passe des affaires puis là, on peut combattre des ennemis puis tout ça. Puis là, tu me parles de PlayStation VR, il n'y a pas de caméra.
Non.
Mais j'aurais pas de misère à imaginer qu'il ramènerait, par exemple, cette franchise-là dans un contexte de réalité augmentée. Mais là, ce serait peut-être plus au niveau des téléphones intelligents que... les consoles. Mais bon, regarde, on verra bien.
Mais j'ai vu le complément parfait aux lunettes de réalité virtuelle.
J'ai vu
ça, c'est fantastique. Tu sais, je te disais que quand tu étais là, quand tu allais jouer.
J'étais-tu là?
Tu étais là en tabarouette.
Chaque fois qu'on en parle, on n'arrête pas de répéter. Fait que là, on a joué à quoi? London Ice, on a capoté.
Attends, non, je parle pas de London Ice. Okay. Je t'ai dit qu'à un moment donné, je m'en allais en voiture. Puis il y a une collision, puis je m'étais crispé, puis il n'y a pas cette sensation d'impact-là. Là, il y a comme un petit suit qui se met, un petit habit contrôlé par Bluetooth. J'avais l'image. Malheureusement, ma console est morte. Ah, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour me sortir. Non.
Wow!
En tout cas, mais c'est le complément idéal. Tu mets tes lunettes et les sensations d'impact de balle, tu les sens.
Là, t'es-tu en train de me dire que c'est un genre...
Ça existe.
C'est un vêtement hydraulique
Non, il n'est pas hydraulique.
Chaque fois que tu te fais écraser...
Oui, attends un peu, je vais essayer
comme
de te le
trouver. Comme dans ça, ça peut t'écraser au complet. La carcasse...
Attends un petit peu, je le fouille.
Je ne sais pas si j'y fais confiance.
Tu ne sais pas ça. Attends un peu, je vais te trouver ça. Si tu veux faire un peu de temps, on va te trouver ça.
Non,
chante pas, c'est beau.
Non,
mais j'ai vu ça aujourd'hui. J'ai dit, il faut que je présente ça. Et malheureusement, ma machine ne collabore pas ce soir. C'est un peu dommage. Attends un petit peu. Je vais te trouver ça. Je l'ai, je pense. Je l'ai. Ce sera pas long. Ça sera pas long. C'est-tu? Non, c'est pas ça. Et non plus. Arrête ça.
Mais la caméra est arrivée sur moi.
OK, excuse-moi. Bon, regarde, je l'ai pas. Dommage, je savais pas sortir. C'est... Oups, là.
C'est ça qui arrive quand la caméra est arrivée sur moi. Là. Oh.
C'est pas grave. Prends une gorgée, mon vieux. Cette gorgée est une présentation de... Ben, reste à la table. Mais pas ça à la table. Laisse ça à la table, c'est parfait. Bon, mais bon.
J'ai l'impression d'être Jean Bord, mais deux semaines en retard.
Tu peux aller chercher...
Fais du temps pendant que
je t'étoie. Je vais faire du temps, c'est à mon tour. Parce qu'il y a un ordinateur sur la table également. Donc, c'est une espèce de petit veston qui se met... Il y a une vue sur la table de l'autre côté. Non, en arrière, dans le bas. C'est un veston qui s'enfile avec des pantalons aussi et ça fait vivre les sensations qui sont présentées à l'écran, mais sur votre corps. Si c'est un jeu de tir, vous allez le sentir. Si c'est un jeu de voiture, vous allez sentir un peu la force G avec certaines pressions. Et il paraît-il que ça fonctionne très, très bien. J'aurais aimé vous le montrer, mais malheureusement, je ne suis pas dans la possibilité de le faire, mais je vais le faire demain. En attendant, Geekette Yoshi, est-ce que tu en as un gagnant? Tu peux m'envoyer le nom via mon téléphone. Tu as le numéro, chanceuse. Appelle-moi, puis je vais donner le nom du gagnant pour les billets de Humour Aveugle présentés le 14 mai prochain. Est-ce que tu peux fermer la porte ou tu es correct
oui,
comme ça?
Évident,
on le fait travailler, mesdames, messieurs. Il vient de quitter rapidement, car il y a la boue non seulement dans le toupette, mais sur les bas aussi. Aïe, 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 aïe. Ah, il est de retour, mesdames, messieurs, sans écouteur.
Tu fasses ton non, plaid,
c'est pas grave, c'est pas grave. Attends, dire merci, un gros merci à l'Autodan qui est allé d'une contribution volontaire ce soir. Et également à notre ami supporter qui nous a donné 40$. Cerber, 5$. Merci beaucoup. Panzer, 2$. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans la zone, Panzer. T'es rendu trop big. Tu joues dans la grosse zone. Toi, dans la petite zone. Toi, t'es dans la grosse zone avec ton gros kit. Nous autres, t'as des petits kits. Toi, t'as un gros kit. C'est pour ça qu'on ne voit plus. Mais non, sérieusement. Mais merci beaucoup à Waptoka qui est redevenu membre pour un troisième mois. Et également à Olivier888 et qui nous a fait des contributions. Comme ça, c'est très apprécié. T'es-tu de retour, mon beau bonhomme?
Oui!
Hey!
Ma bière a énormément de brou.
Ouais.
Mais oh, combien cette brou est bonne.
Oui, tu sac une volée, elle est partie de l'autre bord. Ça
mais
volé
non,
partout.
Mais je veux dire, c'est ça, quand tu fais des singeries.
Exactement.
Derrière des singeries, ça me fait penser. Tu sais, dans Uncharted, on fait des singeries. En tout cas, je
ne
peux pas parler.
Il paraît qu'on fait des
singeries. Mais ça se peut qu'on en fasse aussi ouais. Encore.
OK. Parle-moi un petit peu de nos amis. Bon, encore une fois, non. Parle-moi un peu de YouTube.
Oui, le nouveau.
C'est quoi ça, là, cette histoire-là? Parle-moi de ça.
There will be a new YouTube.
I don't believe you.
Because there's always a new YouTube.
Ouais.
Genre, presque à chaque 2 ans, Google/YouTube décide de renouveler l'interface. Et là, évidemment, c'est un peu en retard, là, genre 2 ans après Android Lollipop, du moins après le dévoilement de ce qu'il appelle le Material Design.
Ouais.
Ben là, il y a une nouvelle version de YouTube qui est en préparation. Il y a un bidouilleur sur Reddit qui a expliqué comment aller effacer le cookie de YouTube pour pouvoir remettre un autre cookie qui fait en sorte qu'on obtient le nouveau design. J'ai réussi à le faire sur ma machine. C'est important d'être déconnecté. Il faut être sur le portail américain. Il ne faut pas être connecté à aucun compte. Si vous préférez rester connecté parce que vous oubliez toujours votre mot de passe, puis là, ça gosse de le rentrer à nouveau, machin chouette. Vous pouvez toujours ouvrir une fenêtre séparée en mode incognito. En mode privé.
Mm-hmm.
Comme ça, ça va vous éviter d'être connecté. Là, on bidouille un peu dans ce que Chrome appelle, parce que c'est seulement disponible dans Chrome, les outils de développement.
Ouais. Mais ça vaut-tu la peine de faire ça? Ça vaut-tu la peine de faire ça?
Ça prend vraiment juste 3 minutes pour au moins voir l'interface, ça ressemble à quoi.
L'as-tu fait?
Oui, je l'ai fait.
Puis c'est beau?
C'est cute, mais ce qui est étrange, je ne sais pas si tu as vu les images que j'ai publiées sur Branchez-vous.
Oui, j'en ai bien en mettre une. Là,
par exemple, il y a...
C'est-tu celle-là? Non, pas ça ici, attends un peu. C'est-tu celle-là ici? Là? Ça ressemble.
Oui, ça, c'est juste... en fait, c'est juste l'entête de la chaîne YouTube, mais l'entête en question, quand tu rentres sur une chaîne, ça prend quasiment le 2/3 de la page. Puis je trouve ça bizarre, parce qu'il faut absolument... se diriger plus bas pour enfin voir du contenu. Quand tu as une entête intéressante avec une belle photo, avec bien du contenu, cool, mais quand c'est juste du rouge avec des images en background, je trouve que ça prend énormément de place pour quelque chose sans contenu. Tu sais, faut quand même... Normalement, en design web, t'évites que ton utilisateur, quand il rentre quelque part, doive poser un geste pour pouvoir consulter ton contenu.
Bon, là, je suis sur ton branchez-vous d'amour.
Oui.
Et je regarde ça. Donc ici, bon, t'as le si rendez-vous tu descends, sur le portail ici, c'est ça? Ici?
Ouais, mais ouais. Là, si tu veux le okay. faire, tu veux qu'on le fasse live?
Non, non, je veux pas le faire, je veux juste okay. le voir. Ah, mais c'est si ça, ici, les images.
Ça, c'est l'ancien.
OK.
Plus si tu descends encore, ça, c'est le nouveau.
Ah, OK.
Donc, bon. C'est plus épuré.
Bon, il n'y a pas un grand changement, là. C'est plus...
C'est surtout dans les menus. Quand tu quand actives le menu, ça revient chercher les mêmes éléments que tu as sur ton application Android, okay. ouais. ton application iOS, ce qu'on retrouve sur PlayStation 4, sur Xbox One, les applications de YouTube qu'on trouve un peu partout.
La tête
c'est
est grosse.
Essentiellement gros, l'interface. Mais oui, ça prend toute cette place-là. Hé,
que c'est ça? Excuse-moi.
Ben oui, man, il est beau, lui.
Oui, il est vrai qu'il n'est pas laid. Il est un peu vieux, là. Tu parles-tu de Sanders? Non, non, excuse-moi.
Ça, c'était juste pour montrer un peu le lecteur vidéo de quoi ça avait l'air avec okay. les commentaires, tout ça. Okay. C'est pas un changement énorme, mais c'est un changement officiel parce qu'il y a même qu'on peut désactiver la nouvelle interface en bas à gauche, il y a une icône d'un monsieur qui tente de sortir. Puis quand on clique là-dessus, Google est prêt à prendre nos commentaires. Donc, ça n'a pas été dévoilé publiquement. On ne sait pas si c'est toujours en chantier chez Google ou si c'est vraiment la version définitive qu'ils vont montrer.
Ça, c'est la recette là, pour le faire.
Et éventuellement, oui, la procédure à suivre. Bon. C'est quand même assez simple. Mais si vous n'avez jamais entré des lignes de code ou cherché des trucs dans l'espèce de fenêtre inspectée, là, outil de développement, si vous n'avez jamais fait ça, vous n'êtes pas à l'aise avec les lignes de code, regarde, faites-le pas, là. J'ai vraiment pas l'impression. J'ai pas envie de répondre à 172 000 commentaires de personnes.
De toute façon, ils vont le pousser à un moment donné, puis ça va se faire tout seul.
Tout à fait, mais généralement, de toute façon, les gens qui écoutent Radio Dalbo ou les gens qui lisent Branchez-vous sont assez techno-avancés. Donc, moi, je me suis pas gêné pour donner la procédure à suivre. Et j'ai l'impression que les gens vont au moins regarder.
Ouais.
Voir de quoi ça a l'air un peu.
C'est sûr.
Sinon,
on peut aller sur ton Facebook adoré. Mais pas ton Facebook, ton Branchez-vous adoré. Oui. Et puis, allez faire un
tour. Non, mais c'est important, en fait. Branchez-vous, faut y aller, genre, tout le temps.
Exactement.
Je veux dire, c'est ma job. C'est avec ça que je gagne ma vie. Fait que si vous y allez pas, ça se peut que je la perde, ma vie.
Merci beaucoup à Guillaume Lambert qui me fait parvenir un truc sur Push Boulette tantôt. Oh. Concernant la veste, mais c'est pas celle-là. C'est pas celle-là du tout. C'est une veste qui fait ressentir justement les coups, tout ça. Ça a l'air assez violent, merci. Comme impact, si je me fie aux commentaires des gens qui y jouent, mais c'est pas celle-là. C'est pas du tout celle-là que je voulais vous présenter. C'est beaucoup plus simple que ça. Il y a bien trop de patentes là-dessus. Tu sais que les bebelles, ça n'a pas d'allure.
C'est cool, mais je veux dire, on va. Moi, je vais attendre que le PlayStation VR sorte. Ouais. Je vais attendre de l'acheter.
Mais l'autre, c'est vraiment...
Avoir les commandes pour...
Ça semblait marcher avec le téléphone. Et on va le retrouver. Et puis, si toi-là, regarde ça, faut que tu plugues ta chaise puis tout le kit. Tu peux pas te promener avec.
Mais ça, depuis un temps, il existe des chaises qui donnent la sensation, les vibrations, les coups de balle.
Moi je l'avais essayé un dans le temps, il y a une dizaine d'années environ. Puis ça donnait des chocs électriques quand tu mangeais une balle. Peux-tu dire que quand tu as eu chaud toute la journée ou le trou, tu manges un choc électrique? Tu dis, non, déplugue ça.
Mais c'est surtout
ça faisait
que...
mal, c'est pas agréable.
Ouais, je sais pas. Si moi, je veux ressentir de la douleur, mais sans nécessairement me faire mal en jouant un jeu, je veux dire... tu sais, si j'avais, par exemple, joué Uncharted, là, tout ce que mon personnage, mon protagoniste a vécu, j'aimerais pas ça le ressentir.
Ouais, pas pour le vrai, en tout cas, c'est sûr. Ça. Mais des façons d'avoir du fun sans avoir mal. Il y en a qui aiment ça avoir mal pour avoir du fun aussi.
Ouais,
mais ça, c'est un autre débat. Hein?
Ça dépend quel genre de fun. Des fois, c'est dans la chambre à coucher, puis ça prend un saut en cuir.
Tu t'en vas là, toi, là.
Ben oui.
Dans la chambre à coucher, tout de suite.
Sadomaso, ti. Non.
Ce soir, à Sadomaso Talbot, on vous parle de... Voyons, où est-ce qu'elle est ma souris? Il n'y a rien qui fonctionne ce soir. C'est vraiment... Bon. Et la machine est gelée. Voyez au doigt. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je voulais te montrer des images de...
Ouais, mais là, c'est des images qui ne marcheront pas non plus.
Oui, attends un peu. Là. Je vais y aller avec... C'est quand même tactile, cette histoire-là. On va essayer de faire de quoi.
Ouais.
Tu sais, on parlait d'un jeu que peut-être que tu as joué qui s'appelle Uncharted.
Oui, tout à fait.
Le fameux jeu en question qui va sortir le 10 mai prochain ou que peut-être certains journalistes ont eu. Il y a un monsieur qui s'appelle Robert Cockburn qui est quand même le lead designer, là, de game designer sur Uncharted qui est sorti aujourd'hui avec ce petit graphique qui nous explique un peu comment va fonctionner l'économie du multijoueur.
Oui.
Donc, tu commences à jouer. Tu fais tes ce qu'on appelle tes délits, c'est-à-dire tes défis quotidiens.
Ouais.
Tu ramasses des reliques. Ces reliques-là peuvent te donner la chance d'acheter des outils, des trucs, des armes, des vêtements, des lunettes, ouais, toutes sortes de trucs. Il va y avoir des caisses qui vont tomber à gauche et à droite que tu vas pouvoir ramasser, dans lesquelles il va y avoir ce qu'on appelle communément du loot, c'est-à-dire des goodies, des bebelles, des affaires.
Ouais, des munitions.
Ça peut être des munitions, ça peut être des trucs rares.
Des accessoires.
Des trucs rares. Et okay, donc, tu vas pouvoir prendre cet argent-là aussi, l'argent in-game, et t'acheter du stock, là, des casquettes, des armes, des lunettes, n'importe quoi. Et on fait le cycle comme ça tous les jours pour éventuellement trouver de nouveaux objets, de nouvelles patentes, ce qu'on appelle communément du farming.
Oui.
Hein,
ça a l'air vraiment bien fait. J'ai pas eu l'occasion d'essayer de multijoueur.
Parce que t'as pas eu le jeu, notre jeu.
Non, bon, regarde, je pense qu'on va arrêter de niaiser. Non, là, je l'ai eu, le jeu. Mais j'ai pas eu l'occasion d'essayer le multijoueur encore. Ouais, par contre, bon, sans préciser nécessairement ce qu'il y a à la fin du jeu. À la fin du jeu, on obtient des points et on peut acheter certains éléments. Il y a certaines choses qui peuvent être débloquées.
Des perks?
On
peut pas le dire.
Des mods?
Ouais, peut-être des modifications.
Oui, tu sais, comme qui peuvent encourager.
Qui pourraient
encourager la rejouabilité du jeu.
Peut-être.
Parce que déjà, à la base, on peut jouer au niveau facile.
On pourrait peut-être jouer au niveau facile.
On peut jouer niveau extrême, tout ça. Puis
comme dans tous les jeux. Parce que attention, t'as pas le droit de donner de détails.
Oui, je le sais. Mais dans les précédents Uncharted, on pouvait ramasser des trésors à gauche, à droite. Et probablement que ce sera le cas, encore une fois.
Dans celui-là.
Je pense que ce genre de détails-là, on peut...
Non, t'as pas le droit. C'est écrit gros de même, man. Ta gueule.
Non.
Non, parce que sinon, tu vas être barré, man. Mais le même monsieur en question est arrivé avec un autre graphique. Il nous parle maintenant de ce qu'on prévoit pour la prochaine année. Regardez, été 2016, les nouvelles cartes.
Mais ça, t'as-tu le droit de le dire?
Oui, ça, j'ai le droit. C'est lui-même qui l'a envoyé. Fait que j'ai le droit de le prendre. C'est sur le blog de PlayStation. Mm-hmm. Donc, pour l'été, nouvelles cartes, nouvelles façons de jouer, nouvelles armes, des nouveaux packs, des bonnies, tout le kit, des nouveaux Mystical. Qu'est-ce que c'est, un Mystical? Ta gueule!
Je sais pas. J'ai pas fait la petite joueur.
C'est bon. Donc, il va y avoir des différentes bebelles. Et ça, donc, le jeu est différents trucs. L'échéancier est là devant vous. Et ça semble être la même... On reproduit le même pattern avec différents objets nouveaux jusqu'au printemps 2017. Et on va voir ce qui va arriver par la suite. S'il va y avoir d'autres missions, un DLC... ça pourrait arriver, hein, peut-être.
Moi, je te trouve sévère, plus sévère que Sony.
Comment ça?
Plein des affaires.
Ouais, dis-le, si tu veux le dire.
Non, mais je veux dire, sans préciser, c'est quoi? Mais regarde, c'est correct. Je pense que les gens ont une idée. De toute façon, j'ai pas d'opinion.
T'as pas le droit d'avoir
d'opinion. J'ai pas le droit d'avoir d'opinion, mais donc, éventuellement, j'aurai une opinion.
Il va y avoir des reliques qui vont permettre de débloquer différents DLC dans le jeu, tu vois. On va pouvoir les obtenir, ces fameuses reliques, en jouant dans le jeu, ou il y aura peut-être une boutique.
Nécessairement, on parlait tantôt de... Tu parlais d'argent à l'intérieur du jeu, donc nécessairement, il va y avoir
une boutique. Il y a une boutique qui va être là. Et puis, il va y avoir peut-être des points Uncharted. Qu'en penses-tu?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Des Uncharted points.
Ben, il y a déjà les in-game points.
C'est probablement la même chose.
Tout ça pour dire que...
Et tu vas pouvoir les acheter aussi, peut-être, au magasin, si tu veux avancer plus vite. Mais c'est pas du pay-to-win.
Honnêtement, t'as pas besoin pour jouer à ça. À moins que le multijoueur soit complètement différent, mais ça reste du Uncharted. J'ai joué à intermédiaire et ça allait. Évidemment, quand on meurt plein de fois, parce que des fois, ça peut ne pas être évident.
Mm-hmm.
Mais j'ai pas d'opinion là-dessus.
Non.
Mais voilà, ça se fait tout à fait.
Ces maudits NDA-là. J'haïs ça pour mourir.
Puis, mais je pense que si on ne précise pas, exactement les patentes, mais qu'on...
Ben là, c'est parce que c'est communiqué officiel. Là. Fait que j'ai le droit de le dire. Il va y avoir des coffres aléatoires. Un objet... ne devrait pas tomber en double. Ce qu'on voit présentement là, dans les autres jeux, là, qui on prend toujours les mêmes maudits pattes de genoux ou les mêmes maudits silencieux à chenoute, ben là, ça ne devrait pas arriver. Il va y avoir des coffres cosmétiques qui vont donner accès à des vêtements aussi, puis des accessoires et différents skins. Des skins. T'aimes ça, les skins?
Oui, j'ai su c'était quoi dans ce contexte-là.
Il paraît que c'est le fun.
Ça pourrait être quelque chose que je trouve intéressant à exploiter, mais encore une fois, encore une fois.
Hey, je veux dire, j'ai bien aimé ton infographie que tu as fait justement pour Ubisoft et Vivendi.
Il y a bien des gens qui m'ont...
J'ai trouvé ça.
En fait, j'ai fait... Il y a des gens qui... La nouvelle circulait ailleurs. Puis ouais. Il y a des gens qui disaient « Vivendi fait le siège d'Ubisoft ouais. ». Tu sais, okay. Faisait des jeux de mots par
ça
rapport à Rainbow Six Siege.
Ouais.
Puis là, je me suis dit, y a-tu une image de Rainbow Six Siege qui aurait d'allure? Fait que là, tu fais une recherche, là, je vois ça parfaitement divisé en noir et blanc. Man, bon. Je mets le logo, puis c'est réglé. Ouais, non, je...
Bravo. Non, j'ai trouvé ça bon. Je voulais te le dire aujourd'hui. C'est rare qu'on te complimente de la sorte, mais...
Ben oui, on me complimente jamais d'habitude.
Jamais. Ben là, je le fais ce soir avec humilité. Bravo.
Oui.
Oui.
Là, j'ai... Non, mais regarde.
Quoi?
No reviews or posting of any assets from Uncharted 4...
On n'a pas rien montré.
...should hit before this time. Ouais. This include any traditional reviews, impressions...
Ouais. Ouais.
Scores, mm-hmm. remarks on social media, impressions from review presentations,
okay.
images, video or audio for both single player and campaign multiplayer.
On n'a rien fait.
Oui, mais tu as vu, c'est large, mais ça ne dit pas de ne pas préciser, par exemple, que le jeu ressemble à d'autres jeux d'avant sur
non,
certains aspects.
Non, ça frôle la critique. Tu n'as pas le droit. No reviews.
J'ai pas d'opinion. Pas d'opinion. J'en parle depuis tantôt. Les gens pourraient peut-être penser que je suis enthousiaste. Mais ho ho! Ho ho!
On arrête ça là. D'autre part, les gens vont sûrement être très enthousiastes de t'entendre parler de ce qui arrive avec nos amis chez Nintendo. Il y a eu des précisions qui ont été apportées par le monsieur Big Boss.
Ben oui, tout à fait. En fait, ces précisions-là ont été apportées probablement en même temps que l'entreprise a déposé son bilan financier
ouais.
annuel la semaine dernière. On en a parlé.
Mm-hmm.
Mais là, évidemment, bon, c'est en japonais. Ils ont traduit, ça a pris un certain temps. C'est le PDG Tatsumi Kimishima qui a répondu aux questions des actionnaires de l'entreprise. Et parmi ces questions, il y avait des questions par rapport à la NX. Donc, évidemment, les gens ont demandé à savoir si la vague de jeux qui allait accompagner le lancement de la NX allait être solide et si la console allait être vendue à perte à l'instar de la Wii U.
Ce à quoi il a répondu...
Non, ils n'ont pas ouais. l'intention de vendre la console à perte et évidemment qu'ils trouvent que c'est important d'avoir une solide gamme de logiciels dès la sortie de la console.
Ils sont fait brûler là, il n'y a pas longtemps là. Ils ont compris, je pense.
Et c'est la raison pour laquelle ils poussent pour un lancement en mars. Ils veulent s'assurer qu'il y ait beaucoup de jeux, d'excellents jeux au lancement, mais également dans les mois suivants, parce que c'est important de déployer de façon continue des jeux et des logiciels de qualité. Donc, c'est un peu la raison pourquoi ils poussent ça. J'imagine qu'ils travaillent également sur le concept de cette plateforme qu'on connaît toujours pas. Il y a eu plein de fuites, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux.
Parce qu'avant de la vendre aux joueurs, il faut que tu la vendes aux compagnies aussi. Il faut que tu réussisses à intéresser les compagnies pour qu'ils te produisent justement un noyau de jeu que tu vas vendre à la sortie.
Si on n'en a pas entendu parler, c'est soit parce que... Nintendo a réussi vraiment à convaincre les compagnies de ne pas en parler. Soit personne n'est enthousiaste par rapport à ça, ou soit
non,
les
c'est
gens...
Juste que
c'est dur à dire.
Je pense qu'il y a une affaire qui s'appelle un NDA. Tu sais le document là, qui t'empêche de parler
ouais,
des
attends,
affaires?
Oui, attends, j'ai jamais entendu ça. Hein. Non.
Mais, en tout cas, donc j'ai hâte de voir ce que...
Souvent, les entreprises, il y a tout le temps un fin finaux dans une compagnie qui dit « check ça! » Puis ils envoient des photos pareilles, puis...
Ouais.
On le voit mille fois avec les téléphones cellulaires.
Téléphones cellulaires, il en sort un ou deux semaines, là, de moins un break.
Ouais, mais...
C'est normal qu'il se mélange, le gars, il sort le mauvais, il sort l'autre.
Ah non, j'ai pas pris le bon.
C'est ça. Puis, mais tout ça pour te dire que c'est une bonne décision, je pense. Et est-ce qu'on va en parler un petit peu plus au E3, tu penses, cette fameuse console?
Ils n'ont pas l'intention d'en parler au E3. Ouais. La seule chose qu'on va voir au E3 de la part de Nintendo en tant que jeu, ça va être le prochain Zelda qui a été repoussé également en mars pour que la sortie coïncide avec le lancement de NX. Tant donné que le jeu va être disponible sur Wii U et NX.
Mm-hmm.
Mais là, au E3, ils vont nous montrer la version Wii U. Pas question de parler de NX. Parallèlement à ça...
Mais ouais, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est quand ils prennent un prototype de console puis ils mettent ça en dessous d'une cloche de verre puis là, tout le monde fait des photos autour. Tu sais, ouais, ça fait jaser, non?
Honnêtement, je ne sais pas. Dans le cas de Nintendo, ils ont tellement eu du succès avec leur présentation Nintendo Direct.
Oui.
Où ils dévoilent essentiellement leur jeu quand ils veulent.
Et ça coûte une fraction du prix.
Ça coûte une fraction du prix.
Pas de déplacement.
Ils sont maîtres de la présentation. Parce que bon, c'est une diffusion en direct, mais il n'y a rien de direct là-dedans.
Non.
Toutes les images ont été préenregistrées. Fait que, dans le fond,
c'est
les gens le regardent live.
c'est clean, c'est propre, ça marche, ça bug pas.
Non.
Puis les fans trippent et repartagent l'information après ça. Puis étant donné qu'ils ont choisi la date, ils peuvent s'assurer, par exemple, que si Microsoft ou Sony annoncent un gros truc, ils vont attendre quelques jours avant.
Ils ne seront pas noyés dans les.
Exactement, dans ils ne seront pas dans noyés dans d'autres nouvelles. Exactement. Je suis vraiment curieux. On va.
De quoi donc?
On a un collègue, mais le E3 cette année, là, sans EA, sans, avec Nintendo qui a une présence réduite. Puis là, Microsoft apparemment pourrait présenter une nouvelle console. Puis on dit nouvelle console, c'est soit une Xbox One Slim, ce qui serait pas dur à faire vu que c'est, je ouais. sais pas si tu as déjà vu à l'intérieur mm-hmm. de la carcasse, là, mais c'est vide, là, cette boîte-là est immense. Fait que ça va être facile à amincir. Soit une console un peu plus puissante à la PlayStation 4.5
4K,
slash là. Neo. Mm-hmm. Ça, c'est pas clair. Ça serait très contradictoire avec le grand responsable de la division Xbox.
Ouais.
Les propos qu'il a tenus par rapport à ça. Là, il y a Sony qui prépare justement sa console. D'après moi, ça sera pas présenté avant genre octobre.
Mais ils vont planter les balises. VR. Ils vont planter des balises. Ils vont dire, nous autres, on va lancer ça. Là, il va mettre la main dans sa poche. Il va sortir un disque. Tout le monde va capoter.
J'ose puis, espérer. Finalement,
ça va être un disque de, je sais pas.
J'ose espérer que la NX va être de la réalité virtuelle ou quelque chose d'un. Une console qui est autant une console de salon puis mobile, ça prend quelque chose d'extraordinaire. Puis c'est drôle, j'ai vu des commentaires, il y a des gens qui disent « Non, on veut juste une console aussi puissante que les autres, mais tu sais, comme normal avec une manette. » Quand à chaque fois que Nintendo essaye de faire comme les autres, ça pogne pas, ça marche pas. Ouais. C'est justement grâce à la Wii puis grâce à un peu la gimmick, mais qui s'est quand même avérée
très
lucrative. Ouais. Que la Wii a vendu autant de consoles. Oui, ils se sont cassés la gueule avec Wii U, mais c'est sûr qu'elle a essayé de trouver une autre alternative pour essayer ouais. de plaire aux consommateurs. Parce que s'ils font tout comme tout le monde, ça ne marchera pas. Ils n'ont pas les moyens de Sony et Microsoft pour perdre autant d'argent par console.
Oui, puis il y a ça, mais... Tu sais, c'est bien fun de perdre de l'argent, mais à un moment donné, t'es tanné d'en perdre aussi, t'as des actionnaires, puis tu veux rentrer dans ton cash, le développement coûte extrêmement cher. Fait. Les lunettes sont en train de développer, ça a dû coûter un bras puis une jambe.
Du côté de Nintendo, faut dire que c'est facile de critiquer Nintendo pour leur dire « Ah, mais là, leur console ne marche pas, fait qu'ils perdent de l'argent. La 3DS, ça va bien. »
Les jeux vont bien aussi. Là,
leur console portable a toujours été numéro un. Mm-hmm. Les jeux, oui, c'est sûr que ça va. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu faible quand même. Les derniers jeux de. Non, Splatoon, je m'en fous de Splatoon, mais je m'en fous.
Ben, ils ont essayé quelque chose. Ils ont essayé quelque chose.
Ah, ça pogne, ils vont continuer, c'est clair. Mais moi, je m'en fous.
Ouais, mais c'est pas toi le public.
Donnez-moi Mario, donnez-moi Metroid. Hey, je suis là, je suis un public pour Nintendo.
Un public. Ils ont une portion du public. Mais Mario Maker ici, ça chauffe. Là.
Ah, Mario Maker, ça par contre, waouh.
Bon.
Mais je suis le public parce que.
Mais t'es pas un gars en ligne de toute façon, toi. T'es pas un gars qui va jouer en ligne de façon naturelle. Tu vas y aller, tu joues avec le même sofa, le même divan, tu sais, bon, t'as du fun. Tranquillement, en ligne t'appelle.
Oui, mais ça dépend toujours du jeu. C'est moi, ça.
Mais t'es pas naturellement.
Call of Duty et Rainbow Six, je m'en sacre.
Ben, vois-tu, moi, je ne vis que pour ça.
C'est ça. Fait, tu vois. On se complète énormément bien. Mais par exemple, GTA 5 en ligne, là,
c'est cool.
J'ai joué, probablement une centaine d'heures.
Mais Splatoon, il y a des gens qui disent yes.
Je suis arrivé plus tard.
Il y a des gens qui te capotent sur Splatoon, qu'il y a des ligues, qu'il y a des gens qui ont du fun. D'autres qui n'aiment pas ça. Puis c'est correct, je respecte ça.
Mauve, bleu, vert.
Ouais.
Faites-moi Mario, là.
Donne-moi Mario.
Un Mario. Pour la NX, hey, une console de Nintendo qui sort avec un Mario. Ça serait le fun, hein? Ça fait juste comme 160 ans qu'on n'a pas eu ça. En tout cas, bon, hey!
Merci beaucoup de ce commentaire très pertinent. Parle-moi un peu de monsieur Bitcoin.
Tu veux que je me fâche?
Fâche-toi.
Mais non.
Pète un gasket.
Non, mais le fondateur de Bitcoin...
On ne savait pas c'était qui, là.
Ça fait longtemps qu'on le recherche. J'ai même fait la blague, justement, dans mon article « Where in the world is Satoshi Nakamoto? »
Ouais.
Parce que, au lieu de Carmen Sandiego, pour les gens qui ont mon âge, donc peut-être pas tout le monde. Je suis vieux. Je suis rendu vieux.
T'es vieux.
Merde! En tout cas, le fondateur de Bitcoin.
Lui.
Là, ce serait peut-être lui.
Bon, on n'est même pas sûr.
Mais on avait le Satoshi Nakamoto, c'était le pseudonyme qui était utilisé par le créateur de cette crypto-monnaie qui a été instauré en 2009. Puis on cherchait un peu l'identité, puis là, il se cachait derrière ça, on ne savait pas c'était qui.
Ouais.
Il y a eu même un un faux rapport de Newsweek, je pense, c'est il y a 2 ans, où ils ont présenté un vieux japonais qui s'appelait genre S. Nakamoto. Tu sais, le nom futait. Là, il avait demandé si c'était lui, puis il avait dit oui, mais ben oui. Il parlait pas très bien anglais. Fait que Lost in Translation. Ils ont fait un gros article sur ce cas-là. Ils se sont cassés la gueule.
Ils ne savaient pas du tout de quoi ils parlaient, ça, sûrement. Là,
mais là, on a cet homme d'affaires australien.
Pourquoi
de 45 ans.
Pourquoi ça pointe vers lui?
Lui, il dit. Ben en fait, il dit que c'est lui. Mm-hmm. Enfin, il sort de l'ombre. Puis là, évidemment, les spécialistes de la communauté sont comme voyons donc, dude, va falloir que tu nous prouves que c'est toi. Puis il y a deux façons de faire ça. En fait, c'est soit déplacer les premiers bitcoins qui ont été enregistrés dans le système qu'on sait qui appartiennent aux fondateurs, aux créateurs du système.
Fallait bouger.
Et qui n'ont jamais été déplacés depuis 2009, là, depuis une éternité.
Okay.
Ben, soit faire ça ou soit les modifier pour intégrer une signature, un message encodé à l'intérieur du blockchain. Parce que de la façon que ça fonctionne, tu as 9 blocs qui déterminent genre une portion d'argent pour chaque transaction. Puis là, il y a moyen d'y attacher un message en les modifiant. Et pour ça, ça prend la clé.
Okay.
Et la
donc,
clé que seul toi
possède. Ouais, c'est ça.
Tout à fait. Donc, il a échangé avec M. Gavin Anderson, qui est le scientifique en chef de la Bitcoin Foundation.
Monsieur Anderson.
En 2009, cet homme-là, un des premiers programmeurs du système, a communiqué avec Satoshi Nakamoto, qui croyait être un Satoshi Nakamoto, probablement japonais, mais on a appris plus tard que cet individu n'existait pas.
Donc
il a communiqué avec Wright. Puis, en fait, c'est Wright qui l'a invité à Londres, parce qu'il habite maintenant à Londres, pour lui faire une démonstration, pour lui prouver qu'il est vraiment l'homme qu'il dit être. Et il s'est ramassé dans une chambre d'hôtel. Puis là, il voulait prouver, à partir d'un ordinateur, qu'il pouvait inscrire le message qu'il voulait sur les bitcoins pour prouver vraiment qu'il contrôle les premiers bitcoins de la patente. Là, lui, il a dit « Wow, minute, attends une minute.
Ouais.
On va acheter un nouvel ordinateur. Je ne trace pas ton ordinateur. » Fait qu'ils sont allés dans une boutique londonienne, ils ont acheté un nouvel ordinateur, un laptop, scellé, ils l'ont déballé. La partie de lui, OK, ils sont connectés sur le Wi-Fi de l'hôtel, tout s'est bien passé, tout ça. Puis là, lui sort de là, puis il est convaincu que c'est effectivement notre homme. Parallèlement à ça, il a fait un billet de blog, il a essayé de prouver un peu qui il était, mais les preuves, les éléments de preuve qu'il a donnés, il y avait un message de Jean-Paul Sartre apparemment attaché aux 50 premiers bitcoins, mais il y a un programmeur, un ingénieur qui a tenté de valider ça et qui est arrivé dans une impasse. Fait que lui, c'est dit ça sent la fraude. Mais là, tu as quand même un des pères fondateurs de Bitcoin de l'autre côté qui dit à l'hôtel, il m'a montré, j'ai inscrit moi-même le message et je suis convaincu que c'est lui. Sauf que le gars en question avait un comportement étrange.
Mais pourquoi il se cache?
Il est bizarre.
Pourquoi il se cache?
D'après
moi... Est-ce que c'est parce qu'il a peur de se faire ramasser par les autorités en place?
Lorsqu'il a fondé le système, c'était clair que c'était ça. Là. C'était les implications que ça allait avoir. Aujourd'hui, ça serait dur de voir disparaître un peu. Bitcoin a un peu prouvé le concept. Donc, peut-être que là, il y a un peu plus de courage ou peut-être qu'il y a d'autres motivations, mais... Anderson a beaucoup de difficultés à comprendre parce que quand il l'a rencontré, il semblait triste... Et très stressé par rapport à l'épreuve de sortir de l'ombre.
Comment dépenser tout cet argent?
Ça valait rien à l'époque où il a créé ces bitcoins-là, à l'époque où il les a minés. Mais aujourd'hui, ça vaut des milliards de dollars. Puis, je veux dire, dès qu'il va les dépenser, dès qu'il va les retirer, les faire passer, est-ce que ça va être un désaveu de son propre système? Je ne sais pas.
Mais c'est dur.
Le gars,
la vie des gens riches et célèbres.
Mais non, mais il est peut-être
Asperger
ou peut-être. Quelque chose parce qu'il semblait pas ultra stable quand l'autre l'a rencontré. Puis c'est sûr qu'Anderson, ça le stresse étant donné que ça met en péril sa réputation. Lui, il est convaincu de ça. Il y a aussi un ex-membre de la Bitcoin Foundation qui a vu la même démonstration, mais séparément, que lui aussi est convaincu. Puis tu as le quotidien The Economist qui a vu la même démonstration séparément, une troisième démonstration qui serait convaincu également. Mais bon, le The Economist, c'est pas nécessairement un quotidien spécialisé en informatique.
Bon.
Donc, c'est difficile. Et même le programmeur qui mettait en doute les preuves a dit, regarde, s'il a réussi à passer, s'il a réussi à convaincre Anderson, d'après moi, ça,
c'est lui.
Ça n'a pas le choix d'être bon. Lui. Ça m'étonnerait qu'il.
Ça veut dire quoi, ça? À la longue, là, ça veut dire quoi en conclusion?
Ben, on sait que c'est lui. On ne savait pas c'était qui.
OK. Bon.
Mais, oui, non, essentiellement, ça veut rien. C'est une nouvelle pour rien dire, mais on le cherche depuis tellement longtemps. Puis, mais le gars est louche, puis là, la communauté n'est pas convaincue. Mais là, il y en a d'autres qui sont convaincus. Puis...
À suivre.
C'est comme une espèce l'autre. De.
À suivre.
Tu sais, t'écoutes des séries, des téléséries où il se passe plein de tourneurs, d'événements. Mais
ça s'en fait
une bonne. On a eu la même affaire.
All right. Hein? T'as-tu vu le gars qui a pris le cube Rubik puis a mis un paquet de petits. Un peu que ce que Snowden a fait. Il en a mis un paquet de mini-cartes SD partout. Oui, oui. Puis il prouve que oui, ça se peut. Dans le film, on le voit, il lance le cube Rubik puis il sort de l'information, les câbles, tout ça. Donc, lui, il a fait pareil. Puis il a dit oui, ça se peut.
Malade.
Et ça paraît pas.
Un cube Rubik, quand tu le réussis. Il ouvre, puis se passe de quoi, de fou.
Non, non, tu veux ça le défaire, puis avoir les petites affaires. Non, mais ça aurait été bon, oui, dans le film, ouais. À Hollywood, c'est ça qui va arriver.
Ah non, mais écoute, comment ça s'appelait, le Brown, Brown avec son...
James Brown?
Non, Da Vinci Code, là, avec les espèces de puzzles, dès que ça fitait, tout s'ouvrait, puis on pouvait
faire... Indiana Jones, du cube Rubik.
Ouais.
Hey, parlant de ça...
Indiana Jones, ça fait penser à un jeu que j'ai peut-être joué, en tout cas. Oui.
Qui se passe avec un gars, puis son frère, puis une fille, puis...
Attends, qui?
Excuse.
Qui t'a dit?
D'Indiana Jones? C'est son père. C'est son père, je me suis trompé.
Non, mais sûrement que dans les moments
sont... Tu sais, moi, j'aime beaucoup les téléphones cellulaires, malgré qu'il y en a un qui sort à tous les deux jours, on dirait. Là, c'est malade mental. Il y en a un qui a été fait, c'est un téléphone chinois, et la publicité est assez convaincante. 150$, ce téléphone-là. Un téléphone qui, ma foi, semble indestructible. C'est fou raide. Regarde bien ça. Ce téléphone-là s'appelle le Thor. Il résiste à...
Déjà là, le nom.
Oui, il résiste au choc. Et ça te tente de péter des noix. Ben, tu pognes ton téléphone et tu barres chez noix.
Ben, c'est pratique.
Non, mais regarde bien ça, c'est assez surprenant. Et il n'y a pas de trucage, nous dit-on.
Ben
il est 5h23, le téléphone fonctionne. Tiens-toi chose. Et qui regarde ça. Bang, il n'est pas brisé, il fonctionne
c'est
toujours.
C'est un Gorilla Glass blindé. 28.
Blindé. C'est assez surprenant. C'est un téléphone donc, qui a été fait par nos amis chinois qui coûte 150$, un écran de 5 pouces en 720p. Il y a 8 cœurs là-dedans. On n'a pas précisé le modèle. S'il y a 3 gigas de RAM.
Ça doit être un Snapdragon.
Probablement.
On dirait que c'est tout le temps ça.
Et une caméra de 13 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant. Et une batterie de 2800 microampères. Milliampères? Micro? Mais c'est milliampères.
Mini.
Oui. Alors donc, ça semble intéressant et on aimerait bien faire connaître ce téléphone de ce côté. Parce qu'on dit que ça, pour son prix, pour sa résistance, il fait la barbe à beaucoup de téléphones. Donc, ça vous tente d'en savoir davantage. C'est le Vernie Thor. C'est un petit smartphone chinois. Très solide.
D'abord, bon, il faut prouver que ça peut vraiment se faire.
Ben regarde, tu le vois là, c'est live.
Ensuite, est-ce qu'il va être aussi solide s'il tombe sur le côté?
Oui, tu vas voir, il y a d'ailleurs un test, attends, je vais te montrer
parce
ça, j'avance
là,
un
il
peu.
Il place quasiment parfaitement, ouais, genre de face à la noix,
instant.
Peut-être que c'est
résistant. Regarde ça là, boum, prends le téléphone, il vient de l'échapper, attends un peu, je vais le refaire, parce que moi, les téléphones, les tests de pour échapper au téléphone, je pense que je suis le meilleur de la planète. Le drop test, check bien ça. Alors, tu vois, il prend un mètre, prend le téléphone qui est allumé. 1, 2, 3. Bang!
Pourquoi il lance pas?
Parce qu'il l'échappe.
Mais pourquoi il lancerait pas?
Il va peut-être le lancer, je sais pas. Hein?
Man, oh. Moi, je regarde ici, il est solide comme tu prétends, lance-le, man.
OK, on inspecte le téléphone. Ça semble fonctionner encore. Oui, ça fonctionne toujours. Et voilà. Est-ce qu'il va y avoir un deuxième test, mesdames, messieurs? Je pense que oui. On verra le téléphone, il n'est pas magané, il n'est pas du tout brisé. Les petits coins sont parfaits. On le réchappe encore, regarde ça. On ne voit pas à quelle hauteur. Regarde ça, on ralentit. Oh, pouf! Tu vois? Alors donc, 150$. On va aller voir un peu plus loin s'il n'y a pas un autre test. Oui, celui-là ici, on l'a vu. Ah, il y a le test. Il l'échappe plusieurs fois quand même. Il roule dessus aussi avec une voiture. Check bien ça, c'est pas des blagues, là. T'as sûrement de faire ça avec ton iPhone.
Non, moi, j'aime mieux utiliser mon iPhone à la place.
Ouais, moi aussi, mais jamais tu es un cascadeur et t'échappes ton téléphone dans tous les roues de ta voiture.
Ben, écoute, c'est pratique.
Les hasards de ton travail, ça peut arriver. Donc, il roule dessus, se dirige, il n'y a pas de coupure ici, voyez-vous, pas de coupure. Prends le téléphone, même pas de traces de pneus sur le téléphone, c'est fantastique.
C'est quasiment louche.
C'est quasiment louche. Ouais. Fake, c'est un fake. Il y a même de la pluie dessus, sinon, regarde, ça roule, il enlève la pluie parce que ça fonctionne. Alors, si. écoute, intéressant pareil à vous. À
vous. Es-tu étanche?
Il y aurait pas mal d'être étanche quand même.
Non, mais si, si il est étanche puis qu'il peut vivre dans l'eau en plus, ça serait malade.
Plus de détails sur vernie.cc, ça
c'est
vous tente.
C'est chinois, ça.
Ah, c'est chinois, les Chinois.
Ah, les Chinois.
Ah, ouais. Hein? T'as pas l'air convaincu.
Ben non, mais je sais pas. C'est toi l'éternel sceptique. Non, mais je suis sceptique de nature.
Ouais.
On verra.
On verra. Moi, quand j'étais petit, j'avais été voir un film en odorama. J'étais petit, j'avais 22 ans.
Wow!
J'étais petit encore.
Genre, tu mesurais 5 pieds d'eau ou 10,
exactement.
Mais pas 6 pieds encore.
Parce que quand, une affaire qui m'avait frappé, une parenthèse, quand j'étais, j'étais allé à Walt Disney avec Fiston et ma blonde, puis on est allé voir Lilo and Stitch, une espèce de manège
où
c'était en odorama, le petit Lilo il se promène, t'as des sensations.
Ben, c'est basé sur le film d'animation.
Exactement, puis t'as des odeurs. À un moment donné, il aime beaucoup le pepperoni, il passe à côté de toi, il fait un rôle, ça sent le pepperoni, tu sais, vraiment, comme si quelqu'un avait roté. Puis les fleurs, puis tout ça, ça sent bon. Et là, on veut lancer la compagnie qui vient de... Ça fait un petit bout de temps que ça existe au Japon, mais on veut commercialiser un truc qui s'appelle le Cyrano. Le Cyrano, c'est quoi? C'est un truc pour mettre de l'air, changer l'air ambiant, parfumer l'air ambiant. Par exemple, si tu veux conduire une voiture et tu es stressé le soir puis tu ne veux pas t'endormir, bien, c'est prouvé que le citron, par exemple, les odeurs de citron vont faire en sorte que tu vas rester réveillé.
C'est pas juste on va s'arranger pour ton environnement sentir bon, puis tu as un paquet de choix, parce que ça existe depuis longtemps.
Non, c'est ça.
Là,
celui-là, tu vas aller chercher des odeurs de citrus, exactement. Donc, tu prépares ça. Quand tu t'en vas en voiture, tu auras des petites pouches qui vont te garder réveillé, tu sais, des petites affaires qui vont stimuler ton nez, puis qui vont faire en sorte que tu n'auras pas le goût de t'endormir. Tu sais. Là, ils veulent adapter ça au cinéma. Tu es en train d'écouter un film chez toi. Le film va déclencher une espèce de signal qui va faire sortir une odeur.
Ça fait une éternité là, qui parle de technologie.
Mais là, c'est là, paraît-il, avec ce gadget-là. Comme lui, il est avec sa blonde, il est en train de texter, puis il envoie un petit message à sa blonde. Touing. Puis là, ça va plus loin que ça, c'est qu'il envoie un petit film. Puis à toutes les fois qu'il regarde le petit film, les odeurs changent. C'est toi qui les programmes. Donc, c'est ça, l'amour.
Comme ça, après ça, tu peux réutiliser l'odeur dans un autre contexte. Puis si elle a aimé le film, elle va soudainement être joyeuse, mais elle ne comprendra pas pourquoi.
C'est ça. C'est tout à fait pavlovien.
Exactement.
Je
m'en fâche dans mes mots.
Ben, c'est pas grave. Donc, ça m'a rappelé un film que j'étais allé voir dans le temps avec Devine, une espèce de travesti, qui s'appelait Polyester. Ça vous dit quelque chose? Non?
Non. C'est ça sentait le polyester tout le long?
Non. C'est un film, absolument, c'est un film en odorama. Mm. OK? L'odorama qui était...
Mais tu sais, imagine, genre Teenage Mutant Ninja Turtle dans les igouts, sentir les igouts en odorama.
Tu pourrais techniquement le faire sans problème.
Je pourrais techniquement pas aimer ça.
Oui, tu pourrais, effectivement. Mais c'était...
Ben, j'ai signé un NDA, fait que je ne sais pas, je peux pas parler.
C'est un film absolument qui éteint, mais qui arrivait avec une carte. Le film en odorama, à l'entrée du cinéma, tu avais une carte avec des numéros dessus. Et lorsque les gens sniffaient des affaires, ben, tu pouvais sniffer ce que les autres sniffaient également. S'il y avait des odeurs de fleurs, ça sentait fleurs, les odeurs de corporelles aussi.
Ben, c'est ça, le film tourne autour de ça. C'est déjà pas
ouais,
tight.
Avec
là,
Devine.
Mais...
C'est un classique de 1981, ça vous tente de jeter un coup d'œil là-dessus.
Boy.
Et c'est quand même très mal fait. Mais dans le cinéma, on nous remettait ces cartes-là. Check bien ça, ma machine capote, mais je vais vous le montrer pareil. C'est ces cartes-là qu'on vous montrait. Je vais essayer de le faire. Voyons, on n'avait rien à savoir à soi. Tiens, là, quand c'était marqué, tu voyais apparaître le 1 à l'écran, tu grattais le 1, ça sentait quelque chose, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et tout le monde anticipait le mouvement avec beaucoup d'impatience. Fait que ça, ce même affaire-là, elle fait un pendant numérique maintenant qui va se faire tout seul. Ben non, imagine-toi.
Tu grattes l'écran de ton téléphone pour que ça sente, non?
T'es même pas obligé, ça va se faire tout seul. Il y a un signal qui va s'en aller, tu es en train d'écouter.
Mais t'as besoin d'un module séparé, genre.
Oui, c'est un petit bidule. Le petit bidule, là, on va te le montrer. C'est un petit bidule qui attends un petit peu. Hey, ça va pas bien ce soir. Je sais pas ce qui arrive avec même ma
chaîne. Ça achève.
Ouais, je sais bien que ça achève, mais je l'ai ici. C'est un petit bidule qui coûte 150$ quand même. C'est pas tellement cher. Et puis, ça, c'est mes gratteux de tantôt. Et ça, ici, c'est le petit bidule en question. Et ça, il y a comme un. Tu mets
c'est
les
ça, il est Bluetooth. C'est pas quelque chose que tu branches à ton appareil.
Non.
C'est plus quelque chose qui se situe dans ton environnement.
Puis, ça arrive avec un livre de compte, si tu veux aussi. C'est 150$. Et tu as des petites fioles dans lesquelles tu mets du parfum et qui mélangent les essences. Et donc, ça permet d'avoir
évidemment,
différents trucs.
Cyrano, avec son long nez, le lien est là.
L'olfaction, t'as tout compris, mon vieux. Merci beaucoup. Attention, pas échapper ta bière.
Ah, là, là, là. Il n'en reste pas assez pour que ça dérange. De
non,
toute façon,
c'est ça. Hey, merci beaucoup à tout le monde. J'ai des gagnants ce soir. Attends un petit peu. J'ai des gagnants ce soir qui ont gagné une paire de billets pour aller faire un tour le 14 mai prochain. Humour 27, c'est Humour avec 27. C'est Danny Landry Fournier. Félicitations pour tes billets. J'espère que tu seras parmi nous pour ce spectacle du 14 mai. Gracieuseté donc de Humour aveugle 27 et de Danny Plante des productions Humour aveugle. Merci beaucoup. À part ça, qu'est-ce qu'il y a de ce côté ici? On va aller faire un tour rapidement. Il y a qui? Il y a Tania 20 qui fait partie du Talbot Nation. Sad World maintenant. Al Cook 91. Keke Love, merci d'être là. Waptopka et Avex Hendrix qui est avec nous. Sans oublier notre ami Olivier 888 qui aimerait que Frank revienne
à
l'émission.
On veut tous qu'il revienne. Je veux dire, chaque fois que j'ai partagé l'écran avec Frank, que ce soit cet écran-ci ou un écran de jadis, on a toujours eu énormément de plaisir parce qu'il...
Il est fin.
Non, mais il connaît un paquet de trucs, puis il va dans des endroits où que des fois, on ne pense pas naturellement où aller. Il aime ça contredire certaines patentes. Non, il est super le fun.
Non, on a du fun. Les gens me demandent si on va faire cette année le Zoo Fest. Je n'ai pas eu de nouvelles. Probablement pas de nouvelles, pas de bonnes nouvelles. Je ne sais pas.
Je ne sais pas parce des fois, pas de nouvelles. Surprise, puis pas trop heureux.
Peut-être que non, peut-être que oui. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux humoristes cette année, puis ouais. Ils ont besoin de salles, je ne sais pas. Mais on ne sait pas, on va voir. Je vais parler à mon ami, M. Roson, je vais en savoir davantage. Hey, Laurent, merci beaucoup d'avoir été là ce soir.
Merci à toi.
Merci à vous tous et toutes, encore une fois, d'avoir été là ce soir. Je suis désolé pour les petits problèmes techniques, ça arrive malheureusement, mais on va s'en prendre demain.
Oh, ça aurait tellement pu être pire, on n'a pas perdu la connexion.
Non, on a déjà
fait la guerre.
Oui, c'est ça, le couteau entre les dents.
Ça se passe très bien.
C'est, je ne sais pas, depuis quelque temps, ma petite surface capote. On va faire quand même du pour un petit ménage, je pense.
Non, attends, mais ce n'est pas la nouvelle surface.
Non.
C'est l'autre d'avant.
C'est ça, c'est l'autre
Peut-être
d'avant.
Peut-être qu'elle le sait. Peut-être qu'il est dû pour changer.
Peut-être que je suis dû pour changer, effectivement. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué encore une fois. Allez faire un tour sur Patreon. Devenez membre. Parlez-en sur les réseaux sociaux. Parlez de nous autres. Merci aux gens de RDS. Il y aura des nouvelles chroniques qui vont être déposées sur le site de RDS d'ici la fin de la semaine. Donc, allez faire un tour. C'est important. Grâce à eux, on a davantage d'exposure. On peut parler davantage de jeux et ils vont nous offrir une petite portion de leur site web qui a quand même 1 400 000 visiteurs par mois.
Ben oui.
On va servir de ça à bon escient, histoire de faire connaître davantage les jeux vidéo, faire connaître cette culture-là, les gadgets, les bebelles, mais aussi le e-sports. Donc, merci d'être là. Et nous, on se retrouve demain, encore une fois, avec d'autres billets pour assister justement à Humour aveugle. Merci beaucoup à mes chers modérateurs qui travaillent fort soir après soir. Et nous, on se retrouve donc demain, même heure, même poste. Salut, attention à vous autres. Bonne soirée. Je vous aime. Bye-bye.
Radio Talbot est rendu possible grâce à la participation du gala Humour aveugle 27. Une soirée de rire garantie au Théâtre Saint-Denis 1 le 14 mai à compter de 20h. Billets en vente chez Ticket Pro. Plus de détails, humouraveugle.ca. Une soirée au profit de la Fondation des aveugles du Québec.
Cet espace vide pourrait être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services. Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous. radiotalbot@gmail.com